Gloire à Dieu pour déjà ces moments que nous avons partagés ensemble, ces moments de louange, ces moments de joie où nous avons pu réjouir le cœur de Dieu. C'est bien cela, c'est bien pour cela que nous sommes venus, pour réjouir le cœur de Dieu, non ? Hein, c'est bien cela. Et nous disposons d'un magnifique trésor, la Bible, vous l'avez tous, hein, dans laquelle nous allons puiser ce matin de nombreuses promesses et exemples. Et pour commencer, connaissez-vous le verset central, celui vers lequel toute la Bible converge ? Il y a un verset vers lequel toute... Voilà. Ok, ben voilà, il est là. Dieu a tant aimé le monde, donc c'est un amour total et parfait, qu'il a donné son Fils unique, son bien le plus précieux, don suprême d'un Père, ça c'est moi qui l'ai rajouté, afin que quiconque croit en lui, donc se confie en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, qui est une finalité parfaite. Amen. Et ce verset, donc, Edwige l'avait rappelé tout à l'heure. Quelle promesse, vous ne trouvez pas ? C'est réjouissant. On devrait s'en enthousiasmer. Quelle promesse, mon Dieu ! Toi, tu as tant aimé le monde. Vous imaginez, tu as tant aimé le monde. Ce temps, il a un sens. Hein ? Non ? Amen ? Amen ! Tu as tant aimé le monde, mon Dieu ! Waouh ! Quelle promesse ! Et pour que l'on comprenne bien, Jean insiste au verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et il précise aussi, celui qui ne croit pas, c'est-à-dire qu'il refuse d'écouter, au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste en lui, c'est-à-dire suspendue au-dessus de sa tête, c'est la version parole vivante qui le dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Voici donc la volonté numéro un de Dieu, rappelée aussi par Paul en ces termes. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 3 à 6. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est sa volonté. Je dirais même que c'est sa volonté numéro un. Et pourquoi je rappelle ceci ? C'est pour que dans notre mission de serviteur de Dieu, d'ouvrier avec Dieu, nous n'oublions jamais, dans nos diverses activités et actions, cette volonté numéro un de Dieu. Que ça reste vraiment le centre de nos actions pour lui. Nous n'oublions jamais. Alors si on revient à Jean 3, 16, et 36, quelle est la clé d'accès qui est donnée dans ces versets ? Il y a une clé d'accès, entre autres, à la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est, la clé d'accès ? Croire. C'est croire. Croire. Et ce petit mot, nous le retrouvons sous différentes conjugaisons, dans une multitude de versets comme condition unique à la réalisation des promesses et de la volonté de Dieu. Croire, croire. Moi, quand je lis la Bible, il n'y a pratiquement pas un seul jour sans que je tombe sur ce niveau. Et vous ? Il est partout. Et ça finit par profondément m'interpeller. Pas m'agacer, m'interpeller. Dieu nous aime, on l'a vu dans Jean 3,16, et il nous veut tellement qu'il a rendu la condition aussi simple que possible. Croire. Ne crains pas, mais crois seulement, dit la parole. C'est Jésus qui dit cela dans Marc 5, 36. C'est simple et quelque part rassurant. Une seule condition, croire. On peut dire donc que croire est la condition, la base de notre relation avec Dieu, car, donc ne crois pas si on l'a vu, car sans la foi, sans croire en lui, donc, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Amen. Toute notre vie chrétienne est fonction de ce petit mot, croire, ainsi que les bénédictions qui y sont rattachées. Ah, ne crains pas. J'ai oublié le N. Excuse-moi. Claudine suit. Donc, toutes tes bénédictions sont rattachées à ce mot croire. Car Jésus nous dit aussi dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Juste croire. Pas compliqué, hein? Juste croire. On ne peut pas plus simple. Qu'en pensez-vous? On peut plus simple? On peut plus simple que ça? Non, croire. Cependant, a-t-on bien compris ce que croire signifie? Ce que ça signifie vraiment aux yeux de Dieu? Et c'est pourquoi ce matin, nous allons nous attacher au sens profond de ce petit verbe croire. Autrement dit, à cette clé qui permet d'ouvrir la bonne porte. Car des clés, les hommes se sont fait des multitudes. N'est-ce pas? Mais une seule ouvre la bonne porte. Et cette porte, c'est qui? Jésus. Et Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 19, c'est lui la porte. Il dit aussi, donc, je ne l'ai pas mis, mais que si quelqu'un passe ou essaie de passer par ailleurs, il ne sera pas sauvé. Selon Jean 19, il dit, celui-là est considéré comme un voleur et un brigand. Commençons donc par examiner comment ce verbe est communément utilisé aujourd'hui. Car c'est un verbe qu'on entend souvent. Je crois. Je crois qu'il va faire beau demain. Je crois. Je crois que ça devrait bien se passer. Je crois. C'est bien utilisé de façon communément. Je crois qu'il va réussir. Etc., etc. Ces « je crois » sont plutôt des « j'espère ». Vous ne trouvez pas ? J'espère, mais sans certitude. Est-ce le sens biblique ? Est-ce le sens biblique de croire ? Non ? Non. Il y a aussi « je crois que le tabac tue ». Je crois que l'exercice physique est nécessaire. Je crois que je devrais surveiller mon alimentation. Etc., etc. Je crois. Ces je crois sont des oui, mais mon bien-être d'abord. Pas maintenant. On verra plus tard. Est-ce le sens biblique? de ce je crois? Eh non. Non, mais ces sens communs du verbe croire, il y en a encore beaucoup d'autres, hein, ont conditionné le sens dont on le perçoit et déformé son véritable sens biblique. Alors, quel est le vrai sens du mot croire dans la parole de Dieu? Si on fait un peu d'étymologie, ce verbe est traduit en grec dans le Nouveau Testament ou de l'hébreu dans l'Ancien Testament, indifféremment par croire ou avoir la foi. Ces deux verbes, hein, pistio en grec et puis aman en hébreu, sont traduits par croire ou avoir la foi. Et on l'a vu dans Jean 3,16, ce que la version seconde traduit par croire est traduit par avoir confiance, se confier dans les versions semeur et parole vivante. Donc les sens sont les mêmes. Croire et avoir la foi. Et l'Ancien Testament utilise souvent l'expression se confier, s'appuyer sur, s'attendre à. Voilà le sens de croire. Donc si on résume, le sens biblique de croire, c'est avoir la foi, avoir confiance, se confier, adhérer à, s'appuyer sur, s'attendre à quelque chose. Ça, c'est donc du solide. Ce n'est pas le j'espère, où on verra. Et ça fait référence à une certitude et ne prête pas à confusion. Croire dans la parole de Dieu ne prête pas à confusion. Par conséquent, croire en Jésus, ça signifie quoi? Le croire? Lui faire confiance? Croire ce qu'il est? Croire ce qu'il dit? Croire ce qu'il a fait? Non? C'est ça, croire Jésus. Hébreux 11, 8 nous dit, c'est par la foi, grâce à sa foi, qu'Abraham obéit à Dieu. Hébreux 11, 8. Donc l'obéissance est aussi la conséquence naturelle de croire. C'est par la foi qu'il crut. Vous savez, aujourd'hui, des milliards de gens disent croire en Jésus. Moi, je me suis amusé sur Internet à rechercher combien il y avait. Je n'ai pas compté. Hein. Il y a 2,6 milliards de chrétiens de toutes confessions recensés dans le monde. Et pourtant, Jésus dit, étroit est le chemin menant à la vie. Il y a peu qui le trouvent. Alors la question qui m'est venue, alors, leur profession de foi, leur pratique, correspond-elle bien à tous, à la description biblique de la foi en Christ? Se pourrait-il qu'elle soit dans certains cas une contrefaçon de ce qu'est bibliquement croire en Christ? Vous savez ce que c'est qu'une contrefaçon? C'est ce qui ressemble à l'original, comme deux gouttes d'eau. Vous avez déjà vu deux gouttes d'eau? Au point parfois de ne plus pouvoir distinguer le vrai du faux, si on n'y prend pas scrupuleusement garde. Et Paul nous parle même d'un autre évangile. Et il est tellement conscient de ça, Paul, qu'il met en garde les Galates. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite, si facilement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. C'est Galates 1, 6, 9 dans la parole vivante. C'est une parole dure, mais Paul avait vraiment conscience de cela et voulait absolument avertir les Galates. Et il existait, car il existait donc à l'époque, des contrefaçons du temps de Paul. Et depuis, ça ne s'est pas arrangé. Hein. Force est de constater qu'il existe dans ce monde des mélanges d'évangiles et de traditions religieuses qui, mélangées ensemble, n'ont pour certaines plus grand-chose à voir avec la vérité biblique. D'où l'importance du sens de croire. Alors soyons vigilants à ce qui nous est proposé, en quoi et en qui nous mettons notre foi, en quoi et en qui nous croyons. Croire, c'est avoir une foi entière, entière, je dis bien, dans le message de Christ. Le prendre au sérieux, comme le dit Abraham, ou comme le fit Abraham. Abraham crut à Dieu et a pris ses paroles au sérieux. C'est pourquoi il fut en règle avec Dieu. Son acte de confiance lui valut d'être considéré comme juste. Galates 3, 6, parole vivante. Abraham crut la promesse. Amen. Et ceci lui fut considéré, à partir de cela, il fut considéré comme juste. On ne retient, nous, parfois, que la promesse réconfortante. C'est réconfortant, une promesse, hein? Mais n'oublions jamais la condition pour vivre la bénédiction qui y est attachée. Et la condition pour vivre la bénédiction qui lui est attachée, c'est quoi ? Croire. Alors comment croyons-nous ? Avec des oui mais ? Oui, oui mais. Se disant que les temps ont changé ? Que ce n'est plus la même époque aujourd'hui ? Jésus n'est-il pas pourtant le même hier, aujourd'hui et éternellement ? Comment croyons-nous ? En faisant le tri dans la parole ? En laissant de côté ce qui ne nous convient pas ? Ou en retenant seulement ce qui nous semble sage et raisonnable ? Ou en attendant de voir pour croire ? Non. Paul nous dit, croire, c'est absolument, être absolument certain de la réalité de ce qu'on voit passer. Pas Paul sur les Hébreux. Hein. Croire, c'est être absolument certain de la réalité qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1, parole vivante. La parole de vie traduit cela en disant « Croire en Dieu, c'est être persuadé, que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. » Amen. C'est uniquement ainsi que Dieu l'entend. Et croire comme Dieu l'entend, c'est tellement important à ses yeux que Paul fait cette exhortation aux Corinthiens. Examinez votre vie pour voir si vous avez la foi. C'est Paul qui dit ça, hein ? Il le dit. Autrement dit, voir si vous croyez vraiment. Examinez votre vie. Oui, faites un peu votre examen de conscience. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. 2 Corinthiens 13, 5, parole vivante. Et cet examen, même David, pourtant homme selon le cœur de Dieu, le faisait fréquemment, pour ne pas dire chaque matin, en priant ainsi avec humilité, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie d'éternité. Psaume 139, 23. Il y a un petit chant. Vous connaissez ce petit chant ? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, etc. Je n'ai pas de guitariste, donc je m'arrête. Alors on se dit, oui, mais moi, me sonder. Je suis converti, moi. J'ai été baptisé par immersion. Je crois en Jésus, en sa parole. Je suis engagé dans une activité dans l'Église. J'ai à cœur de servir Dieu. Je témoigne. C'est quand même bien tout ça. Oui, mais ce qui compte aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que je fais. C'est ce que je crois. La façon dont je crois. Suis-je vraiment dans la volonté de Dieu? Est-ce que, comme David, ça ne vaudrait pas le coup de me laisser examiner par le Saint-Esprit? Non? Vous connaissez l'histoire de Simon le magicien? Dans Acte 8. Il nous a dit qu'après avoir entendu la prédication de Philippe, avec tout le peuple, en même temps que le peuple, en Samarie, il crut. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Acte 8, 13, 14. On voit ici que Simon crut à la parole. Super. S'est fait baptiser. Super. A rejoint avec assiduité le groupe produit par Philippe. On pourrait dire qu'il était à toutes les réunions. Il en voulait, hein. Jusque-là, tout est parfait. Puis, ayant appris ses conversions en Samarie, Pierre et Jean vinrent pour imposer les mains à ceux qui avaient été baptisés, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et Simon était parmi eux. Alors, lui aussi, comme les apôtres, désira pouvoir imposer les mains à ceux qui croiraient. Un bon sentiment. Il en voulait, ce petit Simon. Non ? Vous n'êtes pas convaincu, hein ? Avoir cru, baptisé, suivre Philippe avec sa suavité, il est à toutes les réunions. On lui impose les mains. Il dit, tiens, j'aimerais aussi pouvoir imposer les mains aux autres. Mais, il proposa à Pierre de lui faire une offrande pour obtenir cette faveur. Vous imaginez la réaction de Pierre. Hein. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Tu es captif du mal. Alors Simon, on peut se poser la question, était-il réellement converti? Croyait-il vraiment? Son cœur n'était pas droit. Et le nôtre, comment est-il? N'avons-nous pas gardé au fond de nous quelque chose qui déplairait à Dieu? Ne serions-nous pas quelquefois un peu comme Simon, au travers de nos offrandes, nos actions, nos services, etc., en attente d'une bénédiction ou d'une faveur de Dieu à notre égard? Non. Avec Dieu, tout n'est que grâce. Le troc n'existe pas. Alors, comme le vivait David, n'hésitons pas à nous examiner, à demander à Dieu de sonder notre cœur, nos pensées, et c'est bien de lui demander de venir sonder notre cœur, nos pensées, mais aussi donc d'écouter humblement ce que Dieu nous répond. Car il répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Soyons à son écoute. Comment est-ce que je crois? Est-ce que je crois fermement ce que dit la parole? Est-ce que je crois vraiment en pratique dans les promesses de Dieu? Vous savez, non seulement c'est vital pour nous, mais aussi pour l'Assemblée. Nous sommes une pierre de l'édifice, un membre du corps. Car la façon dont nous croyons, sachez qu'elle a une répercussion sur toute assemblée, c'est-à-dire sur tout le corps dont nous faisons partie. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, quand il nous est dit que les malades étaient guéris, après que le Saint-Esprit ait été répandu, ce n'est pas par la foi d'un évangéliste solitaire, hein, mais par la foi de toute l'assemblée remplie du Saint-Esprit. Amen. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. D'un commun accord. Vous vous souvenez aussi? Sûrement. Lorsque Jésus alla dans sa patrie à Nazareth, qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux passer le... Voilà. Il a dit, il ne put faire là aucun miracle, à cause de quoi? De leur incrédulité. Si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Marc 6, 5. Et quand ici on parle d'incrédulité, il faut savoir qu'il s'agit pourtant du peuple israélite dans lequel se trouve Jésus. À Nazareth. Qui croyait religieusement en Dieu. Ce n'étaient pas des incroyants. Et pourtant, ils étaient dans l'incrédulité quant aux promesses, aux nombreuses promesses de Dieu, sur la guérison entre autres, et sur le ministère de Jésus. N'est-ce pas aussi ce qui se passe de nos jours dans certaines assemblées à cause de l'incrédulité qui y règne, même de la part des malades ou de ceux qui ont un besoin particulier, Jésus ne peut pas faire beaucoup de miracles, malgré, je le répète, les nombreux besoins. Toutefois, comme dans sa patrie, par compassion, Jésus en fait quand même, mais très peu, de temps en temps, malgré, je répète, les nombreux besoins. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Dans l'Église primitive, qui est tout de même un modèle pour nous, qu'a-t-il dit? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Actes 4, 32. Alors donc, lors des moments de prière, pour les malades et le besoin, ne sommes-nous tous qu'un cœur et qu'une âme? Ne serions-nous pas parfois, plutôt, comme des observateurs, se disant au fond de nous-mêmes, est-ce que cette fois ça va marcher? Lors de la prière pour les malades. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est l'incrédulité. Les promesses de Dieu sont certaines. Elles sont, comme nous l'avons vu tout à l'heure, des réalités qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Et Dieu attend de nous que nous les proclamions et vivions avec foi, en le remerciant Et donc on le remercie de quoi? De leur accomplissement avant même de voir. C'est bien ça que dit Hébreux 11, 1. Me serais-je trompé? C'est cela, croire. Autrement dit, avoir la foi. Au contraire, attendre de voir pour croire, c'est ce que Jésus appelle l'incrédulité. Et à cause de l'incrédulité, bien des choses pourtant voulues par Dieu ne se font pas. On le voit bien lorsque Jésus a été à Nazareth. Quand je suis malade, à quoi est-ce que je regarde et m'attache? À mes symptômes ou à la promesse? À ce que je vois ou à ce que je crois? Il y en a qui répondent. Hein. Merci pour les réponses. Ça résume le message. Rappelez-vous, Jésus, devant le tombeau de Lazare. Il commence par dire à Marthe, si tu crois, la condition, tu verras la gloire de Dieu, la promesse. Eh bien, avant même que Lazare ne soit ressuscité, notez bien ce que Jésus dit à Dieu. Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Puis, seulement après, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et Lazare sortit. Jean 11, 41, 43. Avant que Lazare ne soit ressuscité, Jésus dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Notez bien tout cela. Je sais que tu m'exauces toujours. C'est ainsi que le Saint-Esprit agissait au travers de Jésus. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et n'oublions pas que c'est le même esprit qui habite en ceux qui croient, à qui il a promis la même puissance. Tout est possible à celui qui croit. Quelle promesse ! Alléluia ! Réjouissons-nous, tout est possible à celui qui croit. Et avec Lazare, avec cet exemple, Jésus nous donne le plus bel exemple de ce que signifie croire, mis en action, avant de voir. Alors souvent, on croit que l'on croit. Non ? Mais qu'en est-il lorsque nous sommes devant une situation où nous devons vraiment mettre notre foi en action, en pratique ? En nous appuyant sur une promesse de Dieu. Qu'en est-il ? Faisons-nous appel à Dieu en premier ? Ou au système hyper protecteur dans lequel nous sommes aujourd'hui ? On est protégé tout aujourd'hui, vous savez, hein ? On est assuré sur tout. Non ? Est-ce que ce n'est pas vers ce système protecteur vers lequel nous nous tournons en premier? Ou faisons-nous appel à Dieu? Croyons-nous au point de pouvoir dire, comme Jésus, merci Seigneur pour l'exaucement, avant même d'avoir vu le résultat? C'est cela, croire. C'est le sens profond de croire. Faire la volonté de Dieu, c'est croire en ce qu'il dit et promet, avant même d'avoir vu. C'est cela aussi, marcher selon l'Esprit. Quand la parole de Dieu nous fait référence à marcher selon l'Esprit, c'est cela. Ça nécessite un véritable abandon de notre part. Nous sommes tellement accrochés à cette terre et la tête tournée vers le bas. Non, tourner les yeux vers le haut, le message qui est au fond là-bas. Le but de votre vie est en haut. Tournez la tête, le regard vers le haut. Et Jésus connaissait tellement le cœur de l'homme. On peut dire qu'il le connaissait. Hein. Il connaissait tellement notre difficulté à s'abandonner et notre penchant naturel à remplacer cela par de belles actions et œuvres humaines. Qui plus est, en croyant plaire à Dieu, au travers de nos œuvres, qu'il nous met solennellement en garde. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Et alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Matthieu 7, 21, 23. Et vous savez ce que c'est que l'iniquité. Hein ? C'est tout simplement le péché. Dans la Bible, ces deux mots sont synonymes. En effet, Paul nous en donne comment dire, une définition. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, alléluia, dont les péchés sont couverts. Donc on voit que iniquité et péché sont deux mots qui sont souvent associés. On le retrouve aussi associé, vous le lirez, dans Jérémie 35, où l'iniquité est aussi associée de façon très claire au péché. Alors Jésus, ici, on l'a vu, dans Matthieu 7, nous présente des personnes qui confessent croire en lui, qui ont prophétisé, chassé des démons, fait beaucoup de miracles, et tout cela en son nom. Pourtant, il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que vous ne faites pas la volonté de mon Père. Donc, vous ne croyez pas pleinement en moi qui suis la parole. Et comme nous le dit, je ne l'ai pas mis au tableau, mais Jean 16, 9, ne pas croire Jésus, c'est péché. Dans la version Nouvelle Française Courant. Et au sujet du péché, que déclare Jean ? Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, je dis bien non repentants. Ceux qui ne croient pas en ce que dit Jésus, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, donc il croit fermement en sa parole, il l'exauce. Amen. Jean 9, 31. C'est une belle promesse, hein ? Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Promesse que nous aimons entendre. Et retenons. Mais comme souvent dans la parole de Dieu, c'est toujours associé à une condition. Faire la volonté de Dieu. Et une mise en garde. Ici, n'exauce pas les pécheurs, celui qui ne croit pas. Ça, on aime bien. On aime bien entendre la promesse. Mais la mise en garde, on aime moins bien. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Y croit-on vraiment à cette mise en garde ? Quand on parle de croire, on croit à tout. La parole de Dieu est indivisible, elle est pleine et entière. Y croit-on vraiment ? Ne retient-on pas que, simplement, Dieu est amour ? Et on pense qu'il passera sur tout. Non ? C'est parfois dans les esprits, cela. Oui, Dieu est amour. Amen. Mais aussi justice. Et son amour ne remettra jamais en question sa parole. Jamais. On retient souvent les promesses, mais croit-on aux conditions et mises en garde? Dieu nous dit ici que le péché non confessé est un obstacle absolu à son écoute et à son exaucement. C'est un obstacle. Le croit-on vraiment? On pourra, vous savez, si on a des obstacles ainsi dans notre cœur, péché non confessé, on pourra répéter 10 fois, 100 fois la même prière, faire toutes les œuvres possibles que l'on veut. S'il y a un obstacle, Dieu n'entendra pas plus. Alors certains me diront, mais alors, dans Matthieu 7, qui a opéré les miracles? Guérison, prophétie, etc. Faites au nom de Jésus. Qui, à votre avis? Si c'était Saint-Esprit, Jésus n'aurait pas dit ça. Il n'aurait pas dit « Je ne vous connais pas. » Il n'aurait pas dit « Je ne vous ai pas connu. » Parce que vous ne faites pas la volonté de mon Père. Non. Ne serait-ce pas tout simplement l'ennemi de nos âmes, le père du mensonge, celui qui se déguise en ange de lumière, c'est ce que dit la parole, hein, selon 1 Corinthiens 11, 14. Vous lirez aussi à ce sujet Matthieu 24, 24, qui est d'une clarté sans contestation. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Jacques 22 dit « En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Vous savez que Dieu exauce ses enfants justifiés. Amen. Qui, parce qu'ils croient, lui sont agréables. Réjouissons-nous de cela. Dieu exauce ses enfants justifiés qui, parce qu'ils croient, lui sont agréables. Mais l'ennemi de nos âmes peut aussi exaucer ses enfants pécheurs qui, par incrédulité, lui sont agréables. Paul dit aux Galates, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. Vous vous rappelez ce qui est arrivé aux 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan? Terre pourtant promise par Dieu. Hein, ils revinrent en disant quoi? Nous ne pourrons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et pourtant, la promesse de Dieu avait été donnée. Hein. Nombre 13, 31. Malgré qu'ils venaient de vivre la sortie d'Égypte, ils ne crurent pas à la promesse. Waouh. Mais en ce qu'ils avaient vu. Conséquence, hormis Caleb et Josué, qui avaient cru en la parole, en la victoire, les 10 espions qui n'ont pas cru, notez bien aussi, ainsi que tout le peuple, tournèrent en rond et périrent dans le désert. Hormis Josué et Caleb, aucun ne virent jamais, jamais, l'accomplissement de la promesse. Dieu est amour, mais aussi juste. Il ne transige rien quant à sa parole. Est-ce qu'on croit cela? quand on dit que l'on croit, on croit aussi cela. Nous ne verrons l'accomplissement d'une promesse que si nous la déclarons et croyons avant de voir. Amen. C'est cela, avoir la foi. Croire, on l'a vu tout à l'heure, c'est être absolument certain de la réalité qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Alors, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6, 11. Et tenir ferme contre toutes ces ruses. Surtout, la ruse la plus courante, il nous dit, c'est quoi ? Devant une promesse ? C'est la première ruse qu'il a utilisée avec Adam et Ève. La première. Dieu a-t-il vraiment dit ? Donc, nous, on dit une promesse, et puis avec notre intelligence, notre raisonnement, l'autre qui est là, il se dit, ah, il raisonne, il réfléchit un peu, là, il ne croit plus. Dieu a-t-il vraiment dit ? Non. Ce que Dieu dit est vrai. Alors croyons fermement ce que Dieu nous dit, entre autres dans Habacuc, lorsque nous lisons, lorsque nous saisissons, nous voulons nous saisir d'une promesse. Ça ne marche plus. Voilà. Attends avec confiance, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr à son heure. Ça, c'est encourageant, hein. Devant une promesse, attends avec confiance, proclame-la bien sûr, hein. Proclame-la. Et vous savez que lorsqu'on proclame une promesse, Dieu se réjouit et le diable fuit. Qu'est-ce qui s'est passé entre Jésus et le diable pendant le désert ? Dans le désert, il est écrit, lorsque nous proclamons une promesse, Dieu se réjouit et le diable fuit. Alors, attends avec confiance, même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr, à son heure. Ainsi, quand nous sommes dans une situation difficile, maladie, vie sociale, familiale, etc., considérons attentivement nos voies, puis recherchons avec l'aide du Saint-Esprit la promesse de Dieu, la promesse qui répond à cette situation, puis proclamons-la fermement en ce que Dieu déclare, même si la situation persiste, en apparence, car Dieu dit, attends avec confiance, même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr à son heure. Et je termine, si vous me le permettez, par quelques exemples. Dans Matthieu 9, 27, 30, Jésus dit, croyez-vous que je puisse faire cela aux deux aveugles ? Ils répondirent, oui Seigneur. Et Jésus répondit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Si des hommes autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. La foi qu'ont manifesté les deux aveugles. Hein ? Alors quand Dieu dit, parmi les multiples promesses, la parole de Dieu agit en vous qui croyez. Croyez-le fermement. C'est 1 Thessaloniciens 2, 13. Quand Dieu dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Croyez-le fermement. Proclamez-le et croyez-le fermement. Quand la parole de Dieu dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Croyez-le fermement quand les mains vous ont été imposées. et ne courons plus toutes les chapelles. Persévérons plutôt dans la reconnaissance, la confiance et l'action de grâce pour ce que Dieu est en train d'accomplir pour nous. Car si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons, et c'est le présent, hein, la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5,15. Croyez-le fermement. Car sachez que c'est dès la première prière faite avec foi, un cœur pur et un esprit bien disposé, que commence l'action, la réponse de Dieu. Amen. Alors, attends avec confiance, c'est-à-dire en croyant avec foi, même si cela paraît long, ce que j'annonce arrivera à coup sûr à son heure. Et pendant ce temps, laissons le Saint-Esprit agir, persévérons dans le remerciement, l'action de grâce pour la promesse et l'œuvre de Dieu qu'il est en train d'accomplir en nous. Ne bloquons surtout pas son action par nos doutes. Ne crains pas, crois seulement. Juste croire comme un enfant. La parole de Dieu agit en vous qui ? Croyez. C'est la clé, la seule clé. Croire. Juste croire tout ce que Dieu dit comme un enfant. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette parole et garde-nous Seigneur dans cette foi solide que nous croyons Seigneur tous ensemble d'un même cœur, d'une même âme, ce que tu nous dis dans ta parole. Car c'est le fondement de notre marche avec toi, le fondement de notre vie avec toi, ce que tu veux, Seigneur, afin de pouvoir marcher comme des ouvriers efficaces avec toi, efficaces à ton œuvre. Que toute la gloire t'en revienne, mon Dieu. Amen.